Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Cap Sport. Les supporters du Weibeu et des Mélèzes en piaffe d'impatience. La saison de Swiss League de hockey sur glace reprend son envol ce week-end. On se penchera avec Serge Vollet sur le potentiel des deux clubs de l'arc jurassien, le HCA Joie bien sûr et le HC La Chaux-de-Fonds. À Bienne, c'est le tennis qui retiendra notre attention avec la rencontre de Coupe Davis entre la Suisse et la Suède. Une rencontre presque pour beurre, comme l'expliquera notre journaliste Émilie Mumenthaler avant le changement de format d'une coupe prestigieuse et historique. Mais la première partie de l'émission, elle, sera consacrée au rugby et l'ascension de Neuchâtel en Liga. Le championnat débute aussi ce week-end.
Cap Sport, Marcel Neuenschwander.
Bonsoir. La tradition du rugby, elle, a dépassé les frontières de la France voisine. L'Union Jura Rugby est un club qui existe depuis 3 ans. Il milite en Ligue D, tout comme les clubs de Bienne et Yverdon, par exemple. Plus UP dans l'arc jurassien, il y a La Chaux-de-Fonds qui joue en Ligue B et surtout le Neuchâtel Sport Rugby Club qui vient de rejoindre l'élite de l'Ovalie helvétique en Liga. Hugsteiner, bonsoir.
Bonsoir Marcel.
Vous êtes le vice-président du Neuchâtel Sport Rugby Club, on l'a dit au complet, hein, parce que vous y teniez, qui figure maintenant parmi les 8 équipes de l'élite suisse. Un président heureux peut-être d'avoir enfin réussi un objectif après lequel vous courez depuis quelque temps.
Un vice-président et un club très très heureux. Ça fait effectivement 3 à 4 années que nous nous battions pour accéder dans l'élite suisse. Et puis ce projet a enfin pu voir jour dans de bonnes conditions, c'est parfait.
Pour quelle raison désiriez-vous à tout prix rejoindre cette élite suisse ?
Alors, pour ceux qui l'ont connu en 2001, notre autre titre en Ligue B de champion, c'était une certaine expérience et beaucoup de jeunes ne l'ont pas connu. Et il fallait absolument leur offrir cette chance de connaître l'élite, ça c'était le premier objectif. Et puis les infrastructures du club ont aussi monté de niveau. Donc c'était aussi, on était en capacité de faire face, enfin nous le pensons, d'être dans l'élite du rugby suisse.
Mais Hugsteiner, rugby helvétique et Liga, cela ne vaut pas forcément du rêve par rapport à nos 3 Français, par exemple. Quel est le niveau du championnat ?
Oh, je pense qu'on est la 5e division française, donc c'est clair, hein, on n'est pas un pays de tradition à la base rugbystique. Pourtant, on a tellement un esprit combattant dans le bon sens du terme, quand on voit la lutte suisse ou l'état d'esprit dans la culture suisse, je pense qu'on a tout pour le faire. Et surtout, c'est un sport de cœur. C'est un sport où il faut avant tout du courage, de l'émotion. Et après, parce qu'on va prendre des risques inconsidérés quelque part, on va mettre la tête là où la plupart des gens ne mettent pas les mains. Donc je vous laisse imaginer, il faut avoir confiance dans ses partenaires, il y a quelque chose. Quoi.
Les rugbymans ont toujours de belles images. On reste dans un rugby purement amateur, on est bien d'accord ?
Bien sûr. Alors je peux déjà vous dire, à Neuchâtel, les joueurs payent pour venir jouer. Ils sont fous. Quoi.
Ça veut dire qu'on paye ses cotisations, quoi.
Ah oui, c'est clair, on paye sa cotille. Ouais. Si on veut venir jouer, on paye sa cotille. C'est très important, c'est un revenu important pour le club. Ouais.
Et vous m'avez dit, les joueurs qui venaient de l'étranger, les Français, des Anglo-Saxons, hein, enfin, qui travaillent ici, ils étaient un petit peu surpris par ce mode de faire.
Ah, tout à fait. Alors, on a des joueurs ben voilà, qui sont expatriés, que ce soit des îles britanniques, que ce soit de France, des ingénieurs, des gens qui ont des emplois dans l'horlogerie, dans l'industrie, dans le pharmaceutique, qui débarquent ici, qui étaient presque des professionnels dans leur pays, puis là, ils se retrouvent à devoir payer une licence. Donc au début, c'est la surprise. Puis finalement, il s'acclimate très très bien.
Alors, on l'a dit, c'est la Liga, c'est le sommet du rugby helvétique. Un rugby amateur quand même, mais quelle est l'implication des joueurs ? Est-ce qu'on s'entraîne beaucoup, par exemple ?
Alors, l'entraînement lui-même, c'est 2 fois par semaine. Il peut y avoir un entraînement encore de mise en situation, mais je veux dire, voilà, c'est pas très physique. Et puis, il appartient à chacun de compléter sa préparation physique qui est ultra importante. Tout d'abord pour sa propre sécurité, pour sa préparation. Si on n'est pas préparé physiquement, on n'a pas de plaisir sur le terrain.
Dans ce sens-là, vous m'avez dit, le rugby a beaucoup évolué. On se prépare réellement physiquement en salle de force, c'est ça ?
Alors, il y a beaucoup, beaucoup de types d'entraînement. C'est clair, il faut de la densité physique. Je veux le dire très durement, il faut bouffer du gainage. Parce que quand vous prenez des chocs, quand vous prenez un gros plaquage, si vous n'avez pas fait du gainage, vous aurez très mal. Il faut faire de la force à certains moments. Et il faut travailler du 45-15, du 30-30. Donc, 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos et vous enchaînez. Par exemple, il y a une grande mode du crossfit. C'est typiquement un peu ce genre d'effort qu'on a à faire, d'enchaîner des mouvements. Et ça, c'est vraiment, ça a beaucoup changé puisque le rugby est professionnel seulement depuis une vingtaine d'années environ.
Vous faites du gainage et vous faites des protéines aussi ?
Ah, des compléments alimentaires, je crois qu'il n'y a aucun sport qui échappe, hein. Ça c'est clair. Et puis l'alimentation, la qualité de vie, enfin l'hygiène de vie, c'est un peu difficile, hein, parce qu'il y a les 3e mi-temps, bien entendu.
Ça existe toujours ?
Ah, ça n'a pas changé, ça fait partie du rugby. S'il n'y a plus ça, il faut arrêter.
Même au niveau professionnel.
Alors, c'est un peu différent au niveau professionnel. Hein. Maintenant,
on devient plus rigoureux et plus sérieux à ce
niveau-là. On a été impressionnés par les joueurs professionnels qui viennent à notre tournoi 7 de Pentecôte, qui est le plus vieux tournoi continental au monde. Et ils ne mangent pas le jaune des œufs, ils ne mangent pas une frite, et ils prennent le temps de mâcher. Donc vraiment, ils ont une rigueur dans leur préparation qui est assez admirable. Ouais.
C'est inévitable lorsqu'on tutoie l'élite. Hein. Enfin, le sommet, c'est inévitable dans tous les sports.
C'est une question de santé, c'est une question de carrière. Et puis ben là, c'était des joueurs qui avaient environ 25 ans. Donc c'est clair qu'eux, ils jouent leur vie professionnelle sur leur préparation, la qualité du sommeil, la qualité de la nourriture.
On va se repencher à nouveau sur votre équipe, celle de Neuchâtel, bien évidemment. Qui forme l'effectif de ce club? Ce sont des jeunes, des anciens, des joueurs justement qui proviennent de l'extérieur, des étrangers? Comment ça se passe?
Alors, on est une équipe très locale, endogène, je vais dire. Donc, beaucoup de Suisses, beaucoup de Français établis en Suisse. On a un Irlandais, des fois on a eu des Anglais établis en Suisse. Donc, par exemple, en Liga, en rugby suisse, il faut avoir des joueurs éligibles, capable d'être retenu pour l'équipe nationale suisse, ce qui gêne certains clubs plus proches de la frontière que nous, qui comptent sur beaucoup d'apports. Nous, ça ne nous crée aucun problème, puisqu'on n'a que des joueurs quasiment qui sont éligibles. On a quelques expatriés qui viennent de débarquer, c'est les seuls. Sinon, c'est tous des gens qui sont là depuis des années en Suisse. Donc voilà ce qui compose des jeunes, des expatriés qui s'intègrent dans le tissu local, et voilà ce que vous trouverez dans notre équipe.
Sans l'apport de ces expatriés, justement, est-ce que ça serait possible d'évoluer à ce niveau en Liga ?
Aujourd'hui, non, je pense pas. Ils tombent bien, hein, je veux dire, après, ils sont pas obligés de venir jouer avec nous, mais c'est un poids précieux dans l'apport de l'équipe. Ouais.
Hugues Steiner, pour former une équipe en Liga de rugby, le recrutement, est-ce qu'il est facile ?
Non, pas du tout. Je veux dire, le recrutement, on mise beaucoup sur notre jeunesse, sur la formation, parce que ce que le club veut apporter avant tout, c'est une expérience de vie aux jeunes. On sait très bien que les joueurs des 14, 15 ans, 16 ans, les U18, ils se forgent au club, et s'ils peuvent rester, eh ben, ils vont faire vivre la pérennité du club. C'est la première priorité dans le club. Après, si on peut allier plaisir et performance, eh bien, voilà, on en sera très heureux.
Alors, quelle sera la performance de l'équipe de Neuchâtel dans ce championnat de Liga? Est-ce qu'il y a un objectif qu'on s'est fixé?
Alors, il y a un objectif, c'est de se maintenir. Il y avait deux solutions pour se maintenir, parce qu'il y a un fossé entre la Liga et la Ligue B. Soit, effectivement, on faisait venir des joueurs, on les défrayait depuis l'étranger, donc la France voisine.
Et ça, est-ce que ça se fait dans d'autres clubs?
Oui, bien sûr.
Les clubs de l'Arc-Léman?
Oui, bien sûr, ça se fait. Ouais. Ou leur trouve un travail, ou ce genre de choses. C'est des héritages du rugby pré-professionnel. Alors, ça se fait très fréquemment en France. D'ailleurs, quand vous recevez des CV de l'étranger, dites, ouais, je sais faire ci et ça, trouvez-moi un job, quoi. Donc ça se fait. Et par rapport à Neuchâtel, on a trouvé une autre solution. On a reçu un coup de fil du président d'Yverdon, du rugby club d'Yverdon, qui devait aller en Ligue C, et qui est finalement en Ligue D pour d'autres éléments, qui a beaucoup de bons joueurs aussi, et qui nous a proposé de mélanger nos effectifs, de prendre les meilleurs joueurs pour évoluer en Liga, les un peu moins bons, on va dire, pour la réserve de la Liga, qui est aussi un championnat à part entière, et les tout neufs, rugbystiquement ou dans l'âge, pour évoluer en Ligue D, qui est la ligue la plus abordable quand on est débutant. Donc on a accepté, cet accord a été entériné, et par la fédération, et par d'autres clubs suisses qui ont été consultés aussi. Et donc on va commencer cette aventure qui est exceptionnelle dans le paysage du rugby suisse.
Donc il y a une entente entre deux clubs. Alors le nom du club, ça sera plus le Neuchâtel Sport Rugby Club auquel vous tenez tant?
Les deux clubs, c'est pas une fusion, hein, c'est une entente. Donc les deux noms restent, c'est l'entente Neuchâtel Rugby, Yverdon. Et puis si on veut trouver un nom commun, eh bien là on devra réunir tout le monde, un nom d'animaux ou bien je sais rien
les rugbymen ont de l'imagination. J'ai pas de souci pour vous de ce côté-là.
Ah, je peux vous dire qu'il y a pas de problème, oui, effectivement.
Alors, cette entente, est-ce qu'elle pourrait être élargie justement entre Neuchâtel et Yverdon, on le pense, au niveau des juniors?
Alors déjà, c'est le cas, c'est une très très bonne question, c'est déjà le cas, puisque Chaux-de-Fonds, Fribourg, Yverdon et Neuchâtel collaborent ensemble depuis le stade U14, U16, U18 et font des équipes communes. Donc c'est très très bien, puisque ça leur donne plus de poids pour lutter contre d'autres équipes de jeunes qui sont très très fortes en Suisse allemande ou bien dans l'arc germanique.
Alors Neuchâtel Yverdon, on va l'appeler comme ça, c'est entente Neuchâtel-Yverdon, voilà. Dispute son premier match de Liga demain à 15h sur le terrain de l'anneau d'athlétisme de Colombier face à Nyon. Premier match, premier test et aussi premier moment de vérité.
Et tout à fait, on verra où on en est. Nyon est une très très forte équipe, c'est un des phares du rugby suisse, donc ça nous permettra de voir où nous en sommes. On part dans un certain inconnu. Ouais.
Hugues Steiner, vice-président de ce club de Neuchâtel, merci de nous avoir tenu compagnie et bon vent bien sûr pour votre championnat de Liga. Au revoir.
Merci beaucoup Marcel. We'll be right back.
Cap Sport.
Après le rugby, du tennis dans Cap Sport, le magazine donc de la rédaction sportive, l'équipe de Suisse de Coupe Davis joue ce week-end à Vienne contre la Suède en match de barrage du groupe mondial. Elle a malheureusement perdu son premier match et actuellement dans la deuxième rencontre. Eh bien, c'est 1-7-0 pour la formation suédoise, mais pour l'instant, eh bien, Henri Lexonen mène dans le deuxième set sur le score de 4-2. Une rencontre pour beurre, ou presque en réalité. En effet, dès la saison prochaine, la Coupe Davis va changer de format. Elle avait besoin d'être dépoussiérée, réadaptée dans un calendrier trop chargé. Sauf que là, elle paraît bien dénaturée, qu'il est déjà loin, trop loin peut-être, le temps où les Roger Federer et Stan Wawrinka soulevaient le saladier d'argent et dans la foulée, l'enthousiasme d'une nation entière. C'était en 2014 à Lille contre la France. La Coupe Davis, à notre avis, risque fort de perdre de son impact et de son attrait. On en parle ce soir avec vous, Émilie Mumenthaler. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous suivez justement cette rencontre Suisse-Suède du côté de la Swiss Tennis Arena de Vienne. Premier élément d'ailleurs, une rencontre qui suscite un intérêt très poli. Est-ce que la formule est tout à fait consacrée ?
Oui, c'est vrai que cette rencontre ne déchaîne pas les foules. Au milieu de semaine, on nous annonçait que la moitié des billets avaient été vendus. Ça s'est confirmé cet après-midi au vu de l'affluence du public. Il faudra encore voir demain pour le double, ce sera sûrement plus représentatif. Et c'est vrai aussi qu'on le remarque parmi les médias, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait le déplacement pour assister à cette rencontre. Et puis, Suisse Tennis a semble avoir compris qu'il fallait un peu baisser son standing d'un cran sans Roger Federer ni Stan Wawrinka. Par exemple, l'année passée, le tirage au sort contre la Biélorussie s'est fait au Palais des Congrès à Vienne. Et bien, cette année, hier, il s'est fait dans la halle de Suisse Tennis. Et puis également, les prix des billets ont considérablement baissé.
Pourquoi ce désintérêt ? Est-ce que c'est parce que les stars du tennis mondial, on pense à Stan Wawrinka, Roger Federer, bout de la Coupe Davis ou tout simplement parce que ce match est sans réel enjeu ?
Alors, je pense que même sans réel enjeu, s'il y avait eu Roger Federer et Stan Wawrinka, la salle aurait fait sale comble. Et puis après, il y a aussi une équipe de Suède avec des joueurs qui sont encore moins bien classés que les Suisses. Et ça n'a pas fait déplacer les foules non plus.
Alors, on dit que la formule de la compétition va changer. C'est une réalité pour la saison prochaine. Alors, est-ce que cette rencontre compte réellement pour beurre ?
Alors presque, on n'est pas vraiment au courant des calculs exacts, mais la Suisse, même si elle perd, devrait faire partie des 24 équipes qui participeront à la phase qualificative en février prochain. Et si elle gagne, elle aura l'avantage d'être tête de série et donc de jouer à domicile. C'est vraiment le principal enjeu du week-end.
Émilie, c'est un défi. Quel est le nouveau format de cette compétition ? Est-ce que vous parvenez à me l'expliquer en quelques mots ?
C'est assez simple, hein. Oui, alors il y aura un week-end presque classique, si on peut dire, avec 12 rencontres qui se joueront le 1er et le 2 février 2019. Donc, ce sera sur le schéma domicile extérieur. Et puis, là, la grande différence, c'est que ça se jouera que sur 2 jours et non plus 3. Et il n'y aura plus de 5e set. Ce sera donc 3 sets gagnants.
Alors, et ça, puis c'est... ensuite... Allez-y, oui.
Et puis ensuite, donc, il y aura une phase finale qui se jouera sur une semaine. L'année prochaine, ce sera soit à Madrid, soit à Lille, mais on dit que Madrid tient la corde pour le moment. Et là, il y aura 18 finalistes sur une semaine. Et les matchs se joueront non plus en 5 rencontres, si on veut. Il n'y aura plus que 2 simples et 1 double.
Émilie,
toujours en 3-7 gagnants.
Oui, justement, en 3-7 gagnants. Et le format actuel nous paraît, c'est vrai, dépassé parce qu'il exige beaucoup de la part des joueurs dans un calendrier surchargé. Est-ce que c'est aussi votre avis quand même ?
Oui, dorénavant, on n'aura plus potentiellement 4 rencontres de Coupe Davis. On n'en aura plus que 2, la phase qualificative et la phase finale. Après, on perd un peu l'essence de la Coupe Davis, hein, ce qui fait qu'on aime la Coupe Davis, ces matchs en 5-7, avec du suspense. On n'aura plus jamais de 5e match décisif. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore vu un match en 5-7, ça nous tient en haleine quand même.
On s'en souvient encore, hein, de cette rencontre contre la France. C'était à Neuchâtel avec des matchs interminables. Un duel qui s'était achevé au-delà de minuit le dimanche. Il y avait du suspense, de l'émotion. On peut dire que désormais, ça sera du passé.
Oui, après, cette semaine de phase finale, elle sera aussi attrayante parce que ce sera vraiment une belle semaine pour les, pour les amateurs de tennis. D'ailleurs, les meilleurs joueurs du monde réunis à un seul endroit, les matchs vont s'enchaîner. Après, on dit aussi que les principales lésées dans l'affaire, c'est finalement les supporters, parce qu'il n'y aura plus qu'une rencontre par année à domicile si la Suisse est tête de série. Et si elle est tête de série, c'est qu'elle va jouer contre une équipe qui est moins bien cotée. Donc, on risque de ne plus jamais avoir un Suisse-France, par exemple, avec l'ambiance qu'on connaît. Et puis, cette phase finale se déroulera à un seul endroit, donc ce sera sûrement un long déplacement. On parle de Madrid pour les deux prochaines années, et ensuite d'Indian Wells aux États-Unis pour 2021. Donc ça risque d'être compliqué pour les supporters de l'équipe de Suisse de pouvoir vraiment suivre leur formation.
Émilie Mouentaler, merci pour votre éclairage et prenez du plaisir tout de même à suivre donc cette rencontre Suède-Suisse. Je vous le rappelle, c'est à Vienne jusqu'à dimanche. Bonne soirée, au revoir.
Merci, bonne soirée.
Cap Sport.
L'été qui se prolonge ne paraît pas s'y prêter et pourtant ce sont bien les trois coups de la saison de Swiss League de hockey sur glace qui sont frappés ce week-end. Le championnat de Suisse 2018-2019 va débuter. Le HC Ajoie entame l'exercice demain à domicile contre les Ticino Rockets. Une première partie pour se faire la main. Un long et plus délicat déplacement aussi attend le HC La Chaux-de-Fonds qui se rend à Viège. Les deux clubs de l'arc jurassien aspirent comme toujours à jouer un rôle intéressant dans le championnat. Un championnat de deuxième division nationale qui débouche toujours sur des duels palpitants entre les 6 ou 7 équipes qui se disputent les premiers rôles, à commencer bien sûr par ces fameux derbies de l'arc jurassien. Il n'y en aura entre guillemets que 6 cette année, play-off mis à part. On en parle avec Serge Vollet, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Serge Vollet, vous avez vécu dans l'intimité des deux clubs de l'arc jurassien, le HC Ajoie et le HC La Chaux-de-Fonds, comme responsable de la relève. Vous êtes à Fribourg maintenant, mais comment entrevoyez-vous, avant de parler d'Ajoie et de La Chaux-de-Fonds, comment entrevoyez-vous ce championnat de Swiss League d'une manière très générale?
Ouais, ça va de nouveau beaucoup de bagarres pour les quatre premières places. Je pense que les clubs qui visent un petit peu haut du tableau vont vouloir absolument finir dans les quatre premières places. Mais il va y avoir du monde pour ces quatre premières places et ensuite il faudra bagarrer pour être juste derrière. Donc très ouvert, le niveau qui va être de nouveau assez égal dans les 6-7 premières équipes de cette ligue et des grosses batailles en perspective.
Il y a le cas de Kloten qui est assimilable finalement à celui de Rapperswil, un club de l'arc zurichois relégué qui aspire à retourner immédiatement au sein de l'élite du hockey suisse. C'est vraiment cela? Kloten a un gros potentiel?
Alors, gros potentiel, ils ont quand même perdu quelques joueurs. Malgré tout, une ossature est restée et ils visent quand même dans les quatre premiers. Ils ne disent pas forcément que la promotion est l'objectif de la saison, mais je pense que pour eux, si le plus vite possible, ils pourront remonter, mieux ce sera. On a vu rapide pour finir, ils ont pu réussir dans leur deuxième ou troisième année. Maintenant, Kloten sera quand même un effectif qui est bon. Hein. Ils vont jouer un rôle important dans cette ligue-là. De parler de promotion, c'est peut-être un peu tôt, mais je les vois dans les quatre premiers.
Donc, ce n'est pas un club en déroute, c'est ça?
Moi, je pense pas, non. Vu la structure qu'ils ont mis en place, certes, ils ont des moyens qui ont changé, qui sont différents que quand ils étaient en Ligue nationale, mais malgré tout, la stature est là. Ils ont fait des bons matchs amicaux. Sportivement, ils seront présents.
Alors, comment entrevoyez-vous maintenant le championnat des deux clubs de l'arc jurassien? Le HC Ajoie paraît s'inscrire quand même dans la continuité.
Oui, alors l'ossature du HCA, elle n'a pas trop bougé. Il y a eu des transferts qui ont été faits pour boucher les trous de ceux qui sont partis. Le noyau, ben, les étrangers sont toujours là. Hein. Je pense que c'est une base solide. Au but, Niffler, c'est quand même, depuis l'année passée, on a vu que c'était quand même un gardien dominant en Ligue B dans cette ligue-là. Donc je pense qu'Ajoie attend aussi un petit peu de voir ce qui va se passer et bouger en Liga. Hein. La Liga commence que dans une semaine, il y a encore des clubs qui testent des joueurs, donc il risque d'y avoir encore des joueurs sur le marché. On a vu déjà quelques passages, hein, des joueurs qui ont fini à Langenthal comme ça. Donc je pense que le contingent de Ajoie n'est pas encore totalement définitif. Le contingent de Chaux-de-Fonds, ben, malgré les blessures, hein, il y a deux blessures importantes de Herb et de Volgast, hein, qui empêchent un petit peu au niveau défensif de voir la perspective. Ils vont garder, je crois, un petit peu Luthier, hein, sous la main pendant ces blessures. Par contre, offensivement, je trouve que le HCC s'est bien renforcé, hein, avec l'arrivée de Wetzel, d'Azami, l'étranger Kaufmann a l'air aussi d'être intéressant. Donc, de ce côté-là, avec Vieville, hein, encore, et tous les joueurs qui étaient là l'année passée, je pense qu'offensivement, le HCC est bien loti.
On revient sur les étrangers, Serge Vollet. C'est l'assurance touriste, hein, du côté d'Ajoie avec Philippe, Michael DeVos et Jonathan Eisen. De ce côté-là, on est sûr que l'on dispose de deux étrangers compétitifs. C'est un plus important.
Alors, c'est c'est certain, ils ont réalisé vraiment des saisons très importantes pour le HCA. Le HCA est une équipe qui a été un peu de play-off hein, ces dernières années. Ils ont eu toujours un peu de soucis dans le championnat, mais en play-off, c'est une équipe qui a réussi à performer. Leurs deux étrangers, ils sont pour quelque chose, aussi avec, je dirais, l'aspect public et puis le mélange aussi du gardien. C'est une région qui est faite pour les play-offs. Par contre, au championnat, ils ont toujours des fois peut-être des quelques soucis à trouver une routine ou des résultats... progressif. Par contre, la Chaux-de-Fonds, eux, c'est un peu contraire. La Chaux-de-Fonds a toujours bien tourné ces trois dernières saisons en championnat. Hein. Ils ont fait vraiment des très bons championnats réguliers et a calé un petit peu en play-off. Hein, un peu. Alors, est-ce que sous la pression, c'est difficile à dire, mais a eu de la peine à passer l'épaule à des tours en play-off alors qu'on les attendait.
Que dire des deux étrangers du HC La Chaux-de-Fonds qui sont tout neufs, si vous me passez l'expression, Brett Cameron et Tim Kaufmann, qui doivent démontrer encore qu'ils ont le potentiel de tirer l'équipe vers l'avant. Ça s'est plutôt bien passé durant les matchs de préparation, mais la préparation, ce n'est bien évidemment pas les matchs officiels. Vous les connaissez, oui, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, je ne connais pas très très bien, mais en effet, à ce que j'ai pu entendre et voir aussi, parce que j'ai vu un match de préparation du HTC, et c'est très très prometteur, hein. Il y a surtout Kaufmann, je trouve qu'il a vraiment de quoi performer dans cette ligue. Mais il y a la pression qui va avec la ligue, hein. Et même, on prend les étrangers à joie, l'année passée, on a eu quelques soucis des fois, il faut performer, on attend des étrangers qui performent, ça performe pas, il y a la pression qui arrive, et puis, il faut trouver le moyen de retrouver le chemin des filets, de tirer l'équipe en avant. Et, Kaufmann et Cameron devront faire ça au HTC, c'est attendu, hein. Je crois qu'il y a eu quelques soucis ces dernières années avec les étrangers, donc il faut que ça performe, ils devront fonctionner avec la pression. Maintenant, c'est des joueurs qui ont l'habitude de fonctionner et de travailler avec ce genre d'environnement, et je pense qu'ils devront trouver relativement rapidement leur marque.
Serge Vollet, un mot justement sur le potentiel offensif du HC La Chaux-de-Fonds, qui s'est montré actif sur le marché des transferts des joueurs suisses, là, parce qu'on a engagé Alain Miéville et Adam Azani, qui est de retour. Ce n'est tout de même pas n'importe qui. La profondeur de banc est là.
Ah, ça, c'est clair. Je pense qu'offensivement, le HCC va être performant sur les quatre lignes. Hein. Leur quatrième ligne risque d'être impressionnante. Et ça risque d'être un atout pour eux cette saison. Maintenant, on sait toujours qu'il y a des blessures dans une saison. Hein, d'avoir une profondeur de banc, c'est important. Mais là, le Chaux de Fonds, là, ça c'est clair. Hein. Je crois encore, il y avait Zell qui là-dessus. On a Augsbourg qui a beaucoup d'expérience. Bonnet, je veux dire, là-dedans, il y a des joueurs aussi comme Greuzet qui sont là depuis quelques années. Je pense qu'offensivement, pour le coach, c'est le choix du roi un petit peu, et puis ça va être intéressant de mettre de la pression un petit peu à l'intérieur pour pouvoir une bonne attaque.
Et un dernier mot pour le HCA Joie, qui disposera bientôt d'une nouvelle patinoire, au mieux pour l'exercice 2020-2021. Ça va donner un sacré nouveau souffle au club Ajolo, dont le dynamisme est un club de tradition, bien ancré en deuxième division nationale, mais là, avec une nouvelle patinoire, ça va être quelque chose de plus.
Oui, alors ça a été vraiment l'épopée de cet été. C'était vraiment important pour le HCA et le développement du sport, du hockey dans la région là-bas. La votation pour ces deux patinoires, ça a passé. Maintenant, à ce que j'ai pu comprendre, ils sont vraiment maintenant dans la planification de tout ce qui va être dans les ouvrages, parce que ça va prendre, je pense, à peu près 2 ans avant que la nouvelle patinoire soit là. Donc, il y a un échéancier maintenant des travaux qui doit être fait avec tout ce que ça veut dire, mais pour la région, pour le Jura, pour ce club, ça va vraiment donner un coup de fouet en avant, et puis surtout d'avoir des infrastructures qui permettent de pouvoir jouer en Swiss League, puis pour les jeunes, la formation, d'avoir deux patinoires.
Serge Vollet, merci d'avoir livré ces quelques mots, et plein de succès aussi pour vous avec les élites de Fribourg-Gottéron, ainsi que pour le HCC et le HCA en championnat de Swiss League. Bon week-end à tous, et merci aussi pour votre fidélité et pour l'appui indiscutable de Yannick à la technique. Au revoir.